Venons Terre d'accueil. Un podcast pour parler de tous ceux qui ont trouvé, à Nanterre, leur terre d'accueil. Une production Radio Agora. Nanterre d'accueil, un coin pour tous.
Épisode 2. La vie à Sceaux, ça se fête.
C'est
moi qui commence, qui introduit rapidement. Donc là, je lance l'enregistrement et on va se vouvoyer. À partir de maintenant, vous pouvez commencer l'interview en disant « Bonjour, je m'appelle ». C'est à vous.
Yanis, bonjour. Je m'appelle Nejma Benhadj et je suis fondatrice, une des fondatrices de l'association NADA en 1982.
Alors, bonjour. Je m'appelle James Ateba, j'ai 26 ans et je suis président de l'association Vague de Fond.
Bonjour.
Bonjour Julie.
Je suis Julie Verrier, je suis une membre fondatrice et également présidente de l'association Papeteco, qui est située à Nanterre et qui a été créée en avril 2022.
Permettez-moi, avant de parler de l'association NADA, de parler de vous. Ce que j'aimerais savoir déjà, c'est quand est-ce que vous êtes arrivée à Nanterre et pourquoi vous y êtes restée ?
Je suis arrivée à Nanterre en 1975, dans le cadre d'un doctorat que je finissais. J'ai fait des études très longues. Donc, j'ai travaillé à partir de 1979. Et jusqu'en 1979, j'ai fait des études. J'avais, je crois, 30 ans à l'époque. J'ai fait des études de sociologie et j'ai fait mon doctorat à Paris, à la Maison des Hautes Études en Sciences Sociales, jusqu'en 79. J'ai fait mon doctorat en 79.
D'accord.
Donc j'ai fait essentiellement des études et ensuite mon premier travail, ça a été le Club des Canibous. Et je suis venue au Club des Jeunes des Canibous, au Canibou, quartier des Canibous. Et j'ai fait du bénévolat autour du théâtre, de l'engagement, de l'écriture. Déjà, et donc ça m'a beaucoup plu et j'y suis restée. Et depuis cette date-là, je n'ai plus quitté Nanterre, dans différentes associations nantériennes ou hors nantériennes, puisque l'engagement se poursuit aussi avec d'autres personnes qui ont les mêmes motivations, le même objet d'engagement. Donc autour des femmes, autour de l'engagement citoyen, autour de la création d'entreprises, autour de la proximité avec les gens de différentes origines, différentes fonctions, différentes... Voilà, et Nanterre est une ville parfaite pour ça, puisque je me suis complètement épanouie dans cette ville, en y trouvant des amis, en y trouvant... bien sûr, avec des obstacles et avec des choses difficiles, parce que nous arrivions à cette époque-là dans un terrain où arrivaient les petites associations, et notamment les petites associations de femmes, et c'était pas facile d'exister. Et vous savez que l'existence, c'est aussi d'avoir un minimum de moyens, des locaux, des moyens de communication, voire des moyens financiers, et c'était pas évident au départ. Donc, quand on a fondé l'association en 1982, les choses étaient prêtes du point de vue de l'engagement citoyen des personnes qui étaient avec moi, mais du point de vue matériel, c'était pas facile.
Merci. Je vais revenir à l'association après. Pour le moment, ce que j'aimerais savoir, c'est plutôt qui vous êtes, vous, James. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre lien avec la ville de Nanterre ?
Bah, moi, mon lien avec la ville de Nanterre, je l'ai depuis tout petit, parce que j'habite à Nanterre depuis tout petit. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Nanterre depuis la maternelle. Voilà, j'ai participé à plein d'événements sur la ville, plein de concerts, plein de choses. Et du coup, voilà, c'est ma ville, quoi. J'y suis attaché. Et voilà.
Moi, j'ai vécu à Lyon. Je suis lyonnaise d'origine. J'ai fait une licence biologie, puis un master en environnement et risques industriels. Donc très vite j'ai travaillé, j'ai fait une alternance à Veolia, donc dans la gestion des déchets. Et en fait la gestion des déchets m'a plu. Donc j'ai fait une année supplémentaire à Strasbourg, donc 6 mois de formation et 6 mois de stage, où je suis allée dans un bureau d'études qui m'a embauchée immédiatement après. Et pendant 5 ans, j'ai fait des études de faisabilité sur la collecte des déchets, sur la création de déchetteries, sur la création de ressourceries. Et j'ai accompagné énormément d'acteurs en France pour créer des ressourceries. Et donc, il y a une certaine frustration quand on accompagne des gens à créer des projets, puisqu'on les crée pas soi-même. Et donc, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et de partir à l'aventure, sachant que j'habitais à Nanterre à cette époque-là. Hein, j'ai atterri dans un bureau d'études en région parisienne, comme ça arrive souvent. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer un projet qui me tenait à cœur sur Nanterre. J'en ai discuté avec pas mal d'amis de ma promo gestion des déchets, mais aussi des alentours. Et on a créé cette association qui s'appelle Papette Eco et qui a pour but de travailler sur l'impact environnemental du papier, du livre, et de lier les deux.
Alors déjà, l'ADN de l'association, c'est le hip-hop. C'est un domaine qui nous passionne tous, enfin qui passionne tous les membres. Et après, notre principal objectif, c'est de développer des talents et développer les compétences des plus jeunes par le hip-hop.
Je me rappelle plus ce que c'était. Oui, c'était. Je voulais être anthropologue, mais avant ça, je voulais être psychiatre. Et ensuite, avant de faire socio, je voulais faire de la réalisation cinéma. C'était trop compliqué pour moi de rentrer dans une école, donc et puis pour poursuivre mes études commencées en Algérie, j'ai poursuivi plutôt sur la sociologie. Et quand le Club des Canibous est allé sur la fin de sa vie, on était prêt à monter une association qui s'appelle l'association NADA. Donc en fait, c'est une continuation.
Simplement, en fait, la rupture conventionnelle, je l'ai décidée, comme beaucoup de personnes qui travaillent en bureau d'études, quand on accumule les projets, etc., j'ai eu un surplus de travail. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire, en fait. C'est une question que je me suis posée vraiment tout au long de mon parcours. J'ai quand même dévié un petit peu sur mes études, etc. C'est pour ça que j'ai fait une étude supplémentaire. Mais donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des choses qui me plaisent dans mon travail, mais j'ai pas envie de continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, peut-être une rupture conventionnelle pour créer un projet. Sachant que ça résonnait aussi avec Nanterre, avec les anciennes papeteries de la Seine, avec moi j'habitais sur Nanterre et il y a pas de librairie dans le centre à part la librairie La Cigale et la Fourmi, donc qui est quand même très thématique. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas penser aussi ça et se dire répondre à un besoin aussi sur Nanterre.
Mes premiers contacts avec le hip-hop, c'est quand j'allais en studio. En fait, il y avait un ancien ami à moi qui avait un studio chez lui, au Pâquerette. Et en gros, j'allais là-bas et c'est là où j'enregistrais mes premiers morceaux. C'est là où j'ai vraiment goûté au studio. Et après, je dirais les open mic à la maison Daniel Ferry. C'est là où j'ai fait mes premières scènes et depuis on s'est plus lâché. Voilà. Le hip-hop, c'est plus qu'un style de musique ou quoi. C'est vraiment c'est un mode de vie en fait, tout simplement. C'est un mode de vie, c'est une façon de penser et ça se retranscrit par la danse, par le rap, par le slam, par plein de choses.
Aujourd'hui, vous avez quel âge, James ?
J'ai 26 ans.
26 ans, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous entre le moment où vous avez quitté l'école, on va dire classique, et aujourd'hui ?
Déjà, j'ai quitté l'école à la fac, enfin après la fac, du coup. Enfin, j'ai fait ma licence et j'ai arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En vrai, j'ai accumulé plein, plein de choses, plein de compétences, plein de choses. Hein. Je me suis renseigné, j'ai beaucoup écouté les autres. Voilà, j'ai pris en maturité, ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Du coup.
Aujourd'hui, vous êtes là pour représenter une association. Cette association, elle s'appelle Vague de Flow, avec un chiffre pour 2, Vague 2, le chiffre Flow.
Ça.
Et c'est une association qui a pour but, on va dire, de promouvoir la culture hip-hop sur Nanterre. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une association ?
Déjà, je tiens à rectifier quelque chose. C'était pas en 2014, mais c'était il y a quelques mois. C'était en avril 2023. Et ce qui m'a poussé à créer cette association, en fait, c'est très simple. C'est que j'étais à un événement de la maison Daniel Ferry, où en fait, c'était un speed meeting et où il y avait plein de personnes du milieu, quoi. Enfin, des directeurs artistiques, des managers, des producteurs. Et moi, en fait, de base, je fais du rap et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'y aller, que je pourrais peut-être me faire des contacts. Et du coup, j'y suis allé. Ça s'est pas forcément passé comme je l'espérais, mais j'ai assisté en gros à une conférence d'une manageuse qui travaille dans un label maintenant, enfin dans une grosse maison de disques. Et en gros, elle expliquait son parcours. Elle a dit que elle avait commencé avec un label associatif. Elle avait un artiste, c'était son mari, je crois. Et petit à petit, elle a gravi les échelons avec ses moyens. Et aujourd'hui, elle en est là où elle en est. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que... Enfin... Comment dire ? Je me suis dit que... Avec ma situation, ça servait à rien de courir derrière un label ou autre. Et je me suis dit, vu qu'on veut pas me produire, en gros, hein, je me suis dit, vu qu'on veut pas me produire, je vais me produire moi-même, tout simplement. Je vais me produire moi-même et aider ceux qui sont dans la même situation que moi. Avec les moyens que j'ai, et
c'est ça,
voilà. En fait, c'est pas vraiment me produire moi, c'est juste me permettre au passage d'avoir une structure dans laquelle je peux m'enregistrer sans contrainte, sans les contraintes que j'aurais en étant totalement indépendant, sans rien. Mais oui, enfin, c'est plus pour aider les autres, parce que je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là. J'ai des amis à moi qui font de la musique aussi. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Et je me dis que en vrai, si je peux aider, autant le faire, tout simplement. Avec le peu de connaissances que j'ai, avec le peu de moyens que j'ai, je me dis que si je m'associe aux bonnes personnes et qu'on avance tous dans un intérêt commun, voilà, tout le monde y gagne.
Est-ce que à ce moment-là, quand vous décidez de vous concentrer sur un projet plus personnel et d'abandonner la masse des études et du bureau d'études, est-ce que à ce moment-là vous le faites dans une forme d'engagement ? Est-ce que vous avez l'impression de vous engager ou est-ce que vous avez l'impression simplement de réagir et de prendre les décisions comme elles arrivent ?
Mais en fait, je me suis engagée tout au long de ma vie puisque. J'ai fait des études de biologie pour faire de l'écologie à la base. L'écologie, c'est des métiers qui sont un peu compliqués. Le marché du travail n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai bifurqué vers l'industrie. Puis ensuite vers les déchets. Et l'aide, l'accompagnement aux collectivités était aussi un engagement, en fait, de ma part. Sauf que sur le format entreprise et bureau d'études, j'ai pas trouvé mon sens dans cet engagement-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis partie sur un format plus associatif d'engagement.
Est-ce que justement je peux vous poser une question peut-être centrale dans ce sujet mais essentielle ? Quelle est votre définition de l'engagement ?
Qu'est-ce que c'est que l'engagement ?
Je pense que l'engagement, tout le monde est capable d'engagement. Il faut savoir que c'est une opportunité, c'est une chance l'engagement.
Ma définition de l'engagement, c'est... rendre service sans attendre quelque chose en retour, forcément.
Pour moi, c'est le fait de se donner, de donner de sa personne, de sa pensée ou de son être, physiquement, pour une cause, quelle qu'elle soit, en fait. Avec peut-être un attachement aussi de la personne à la cause. Je pense que c'est ça l'engagement.
Est-ce qu'on a la chance de rencontrer les bonnes personnes pour s'engager? Est-ce qu'on a la chance de rencontrer des opportunités de lieux, de milieux, de personnes? Moi, je crois que l'engagement, c'est ça. C'est la chance qu'on a eue de rencontrer, d'avoir une enfance tranquille, d'avoir des études, de grandir tranquille, en sécurité, d'avoir fait des études, d'avoir des diplômes, et de vouloir, à son tour, faire quelque chose pour ceux qui, par rapport à ceux qui ont fait des choses pour toi. Donc, c'est presque un échange, c'est un engagement, c'est pas... Je ne sais pas si ce mot est adapté à moi. Disons, je ne fais que rendre ou pas rendre, j'en sais rien. Je ne fais que continuer ce que j'ai fait tout le temps.
C'est... Ouais, c'est ça, hein. C'est s'engager pour des idées, pour... C'est défendre des idées, défendre une façon de penser, défendre des idéaux, du coup. Et voilà.
Prendre des engagements, par contre, c'est différent. S'engager, c'est une chose, mais prendre des engagements, c'est-à-dire que les gens avec qui tu es, avec qui on se trouve, ont besoin, et c'est là où, à Nanterre, effectivement, j'ai rencontré ce point-là, c'est qu'ils demandent que les personnes qui sont avec eux prennent des engagements. Et je veux dire, chacun doit pouvoir y trouver son compte. L'engagement, ce n'est pas quelque chose d'absolument gratuit. L'engagement, il faut que chacun y trouve son compte, des deux côtés. Celui qui s'engage auprès de d'autres personnes doit s'engager aussi à ce que ces gens-là... C'est un peu un engagement réciproque et un peu une chaîne d'engagement, voilà, qui fait une ville, parce qu'une ville, c'est fait de personnes qui s'engagent. On n'est pas destiné à l'engagement, on n'est pas... Je crois que c'est une question d'opportunité, de formation et de bonne rencontre. C'est ça l'engagement.
Est-ce que vous avez hésité le moment où vous avez dû choisir un cadre d'action et que vous avez choisi de le faire à Nanterre? Est-ce que ça a été quelque chose d'évident? Et si oui ou sinon, pourquoi?
Non, ça a été évident. C'est évident parce que... Nanterre, je sais que Nanterre, la ville, la mairie, je sais que sont engagés dans ce type de projet. Je sais que la ville elle soutient ce type de projet. Et voilà, je sais que, enfin, je savais que en restant à Nanterre, ça allait bien se passer pour moi entre guillemets. Je sais que on est bien encadré, il y a un réel suivi, on n'est pas mis à l'écart. Comme on peut voir dans certaines villes, par exemple, je sais que voilà, on est valorisé, c'est ça.
Est-ce que vous avez l'impression que vous vous engagez pour les jeunes nantériens quand vous faites ça?
Franchement, oui, hein, parce que moi-même, étant plus jeune, quand je voulais enregistrer, par exemple, il n'y avait pas forcément de structure où je pouvais le faire. J'étais obligé d'aller dans des studios professionnels, à moins, enfin. Avant que je rencontre mon ami Alexis, qui j'enregistrais avant, mais pour enregistrer, il y avait pas forcément de solution. Le hip-hop, c'était pas le courant à la mode. C'était à la mode, mais c'était pas comme maintenant. Il y avait pas, enfin, honnêtement, j'aurais bien aimé pouvoir adhérer à une association et pouvoir faire des ateliers pour qu'à la fin je sois sur scène, des trucs comme ça. Donc oui, honnêtement, j'ai l'impression de m'engager pour les jeunes, en tout cas.
Et qu'est-ce qui explique que Julie Verrier, à un moment, décide, par exemple, de s'engager dans cette question qui est celle de la gestion des déchets?
Depuis toujours, j'ai été sensibilisée à l'environnement. Quand on fait des études de biologie et puis d'écologie, on a très rapidement conscience du changement climatique, de tous les enjeux qui vont autour de l'environnement et de la société. Et donc on a envie de prendre sa part sur les solutions, en fait, qui vont être amenées à être choisies et essayer de prendre le pas sur l'action, quoi. Et essayer de vraiment lancer un mouvement et de faire un accompagnement, en tout cas, à ceux qui veulent le faire. Donc, j'ai oublié ta question. Votre question.
C'est pas grave, mais ma question, c'était quelle est la raison qui vous pousse, vous, à un moment, à vous dire, je vais dans ce champ-là, qui est celui de l'écologie, assez largement, là où vous auriez pu vous engager dans quelque chose d'autre. En fait, la question qui se pose derrière et à laquelle on arrive, c'est est-ce qu'il y a des gens engagés et d'autres qui ne le sont pas, ou est-ce qu'on est engagé comme ça par nature? Qu'est-ce qui vous pousse à un moment de votre vie à vous dire, ok, moi, je m'engage?
Moi, je pense que chacun a des passions. Et donc, par un moment ou un autre, on s'engage quelque part. On est engagé pour soi ou on est engagé pour les autres. Voilà. Mais je pense honnêtement que chacun est engagé quelque part.
J'entends pas mal de questions là derrière ce que vous dites. J'entends la question peut-être déjà du pourquoi. J'ai l'impression que s'engager, c'est déjà avoir rempli une sorte de pyramide des besoins et avoir la possibilité de s'engager parce qu'on a rempli d'autres priorités.
Oui, c'est vrai.
Et puis en même temps, est-ce qu'on s'engage nécessairement quand ça va bien pour soi, ou est-ce qu'il y a des événements tragiques aussi qui peuvent, alors qu'on va très mal, nous emmener vers la voie de l'engagement?
Alors, il y a trois réponses. Il y a celle que je t'ai donnée, il y a une autre réponse que je vois chez les bénévoles de l'association qui s'engagent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont passé un moment avec nous et qu'ils ont envie de s'engager à leur tour. Ça, c'est un engagement gratuit, bénévole, volontaire. Et il y a l'engagement face à la difficulté, face aux contraintes, face aux drames, comme ce qui se passe autour de nous. Ce qui s'est passé cet été, ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Libye, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, on se réveille, on se dit peut-être qu'il faudrait que je bouge. Effectivement, il y a trois types d'engagement.
Et pourquoi on s'engage, selon vous?
Le véritable engagement, il n'y a pas de véritable engagement. En fait, c'est une chaîne, c'est une succession de petits engagements. C'est ça. On est pris là-dedans. J'ai pas bien saisi ta question là.
La question c'était pourquoi on s'engage? Est-ce qu'on s'engage pour soi?
Moi je pense que oui, on s'engage pour soi. Bien sûr qu'on s'engage pour soi.
Est-ce qu'on s'engage pour les autres? En fait, avant l'interview et avant que j'allume l'enregistrement, je crois que vous m'avez dit une belle phrase, ça semblait un peu comme un adage ou comme un proverbe. Ça devait ressembler à. Au début, on s'engage par besoin et
par hasard.
Ensuite, on s'engage par conviction.
Oui, oui, c'est vrai. Au début, on ne se rend pas trop compte où on va, effectivement. Quand on s'est engagé dans cette association ONADA, on l'a fait par plaisir et pour continuer le plaisir qu'on avait à jouer ensemble du théâtre, à faire du dessin, à faire de la musique, à faire des reportages. Il y avait tout un groupe de travail qui était autour de ça et qui allait mourir parce qu'il n'y avait pas de lieu pour continuer. En 1982, quand on a créé ça, d'ailleurs les statuts continuent à porter ce mot de culture, c'était la culture qui nous intéressait. Continuer ce que nous faisions avec plaisir. Et au fur et à mesure que le temps passait, on voyait que les gens avaient des besoins aussi. Il n'y avait pas que la culture, il n'y avait pas que le loisir, il n'y avait pas que la musique. Il y avait aussi des besoins fondamentaux, des besoins d'apprendre à écrire et lire, des besoins de remplir des papiers, des besoins de parler, des besoins de liens sociaux. Et ces besoins-là, petit à petit, on les a intégrés, on les a fait nôtres avec toute l'équipe qui était là et qui, petit à petit, font que l'association NADA est devenue, parce que l'association NADA aujourd'hui, quand tu prends son programme d'activité, c'est pas du tout le programme qu'il y avait en 1982. 1982, c'était faire de la musique, c'était de l'animation, c'était... Ensuite, il y a eu des engagements dans la création d'entreprises, parce que les jeunes qui venaient en 1982 de l'immigration se retrouvaient à la rue parfois parce qu'ils n'avaient pas réussi, ou ils avaient réussi dans leurs études, mais ils n'avaient pas de travail. Donc, on a créé des petites entreprises pour donner du travail et pour remettre le pied à l'étrier de la formation. Et c'est des opportunités comme celle-là qui font qu'on s'engage. Parce que c'est pas moi qui ai décidé qu'il fallait, par exemple, créer un salon de coiffure, école. C'est une bénévole qui m'a dit un jour, écoute, moi j'ai un CAP de coiffure, j'ai ma copine Nadia qui a un CAP de coiffure, et on aimerait bien faire de la vraie coiffure dans un vrai salon, avec un vrai contrat de travail, avec des vrais clients, etc. Et donc on s'est bagarré pendant 3-4 ans, parce que personne ne croyait à notre projet. Personne. Ni la chambre des métiers qui nous mettait des bâtons dans les roues, ni les gens qui s'occupaient des locaux parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils disaient, mais mettez-vous dans un petit HLM, un petit truc et faites ça entre vous. C'était pas ça qu'il fallait. Il fallait des choses sérieuses, des choses qui... C'est ça, quand je dis l'engagement, ce sont des engagements. Quand on s'engage avec quelqu'un, c'est une responsabilité. C'est lourd, c'est très lourd. Parce que ça joue sur la vie des gens. On prend pas un engagement comme ça uniquement pour se faire plaisir. Parfois, c'est lourd.
Peut-être revenons maintenant à Papette & Co. Donc, quand vous vous engagiez, c'était en quelle année d'ailleurs?
Je vous coupe, c'est ouais. Papette Eco.
Papette Eco, pardon.
Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est un jeu de mots pourri entre nous, mais l'idée, c'est vraiment papier, éco, écologie. Voilà.
Ok. Alors,
bien sûr, c'est écrit avec une esperluette, mais...
Alors, on dira bien Papette Eco. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de Papette Eco et nous raconter un peu comment ça s'est passé, quelles ont été les joies et les difficultés?
Le projet de créer un lieu était déjà assez prégnant dans ma tête. Et donc, j'ai retrouvé des amis pour en parler. Et ensuite, quand on a creusé un petit peu le sujet... on a trouvé que on n'avait pas beaucoup de bibliographie rapportée au papier, à l'impact environnemental du papier, que c'était pas un sujet qui était vraiment mis en avant. Et donc du coup, on s'est dit qu'il y avait un besoin aussi autour de ça, de documenter, d'aller plus loin en fait dans la sensibilisation, dans la compréhension de l'impact environnemental des livres. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va créer une association, et le projet de lieu qui était à la base le premier projet que j'avais en tête serait qu'un projet de l'association. Et par ailleurs, on fait aussi plusieurs actions, notamment de l'observation. On va aller chercher dans des rapports type ADEME, des rapports un peu poussés. On va récolter les données, essayer de les redigérer, d'en refaire des articles. Un petit travail journalistique, mais à notre échelle, sur nos connaissances à nous.
Et aujourd'hui, Papette Eco, qu'est-ce que ça représente en termes d'action et qu'est-ce que ça représente en termes humains? Est-ce que vous êtes plusieurs et vous êtes engagés là-dedans?
On est plusieurs. On est depuis cet été, on est 40 adhérents. Mais c'est des adhésions qui sont plus ou moins impactantes, plus ou moins motivées. Je pense que je dirais qu'on est une vingtaine de bénévoles actifs. Et une dizaine de bénévoles qui sont là pour coordonner l'association et pour aller dans les cercles de réflexion. Voilà. Pour répondre à la question sur les activités de Papette Eco, on fait pas mal d'ateliers de sensibilisation. Cet été, on s'est retrouvé sur à peu près la moitié des terrasses d'été de Nanterre. Cet été, on a aussi fait un événement qui s'appelle Tapage. On a créé une librairie d'occasion éphémère dans le quartier du chemin de Lille. Donc, c'est un quartier qui nous tient à cœur. Et on a aussi des actions d'observation, comme je vous disais. On fait un peu de collecte de données et de redigestion et d'articles en direction des personnes qui s'intéressent à l'impact environnemental du papier et du livre. On parle de pilonnage, on parle d'impact des flux en fait mondialisés, des matières premières qui vont donner du papier, mais aussi à l'inverse, des flux mondialisés du papier qui va être recyclé. Et on discute de comment est-ce qu'on peut réduire ça, au moins à notre échelle, comment on peut faire des actions vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers, qu'on fabrique nous-mêmes des choses à partir de papier, de dictionnaires, de plein de choses. On s'amuse beaucoup aussi à trier des couleurs, à faire des choses avec les habitants.
Dans l'état actuel des choses, on est en train de monter un studio d'enregistrement. Donc on a les locaux, on est en train de faire les travaux là actuellement, et voilà, il devrait ouvrir au public courant fin octobre début novembre, Et voilà, on prévoit de faire des ateliers aussi, donner des ateliers de danse, d'écriture, de prise de parole. Et après, on n'a pas forcément rallié beaucoup de monde à la cause, parce qu'on a là pour l'instant, on recherche vraiment des profils précis pour vraiment pour la partie label entre guillemets. Donc on a recruté quelques personnes dans la photographie par exemple, dans la direction artistique, dans la direction visuelle, tout ça. Mais oui, c'est prévu en tout cas. C'est prévu, on devrait lancer la campagne d'adhésion très bientôt. Une fois que le studio sera prêt en fait. Voilà.
Et vous parliez tout à l'heure d'un certain groupe de personnes. En tout cas, vous disiez à l'époque, en 1982, quand on crée l'association NADA, nous voulions faire de la musique, nous voulions faire du théâtre, nous voulions faire de la culture. Et finalement, on était assez loin de ce qu'on allait devenir. Qui est ce nous ? Parce que moi, je sais que vous êtes la présidente, mais j'entends nous.
Alors, nous, c'était un groupe d'habitants du Petit Nanterre, plus précisément même des Canibous, du quartier des Canibous, qui fréquentait assidûment le club des Canibous, qui a donc fini sa vie en les années 79-80, et qui était réuni dans un groupe culturel, dont certains se sont retrouvés à l'anniversaire. Je pense à Maui qui dirige une chorale aujourd'hui à Saint-Denis et qui a dirigé la chorale de l'association avec d'autres, et qui est donc un enfant du quartier des Canibous. Je pense à d'autres qui sont aujourd'hui directeurs, qui ont été profs, et c'était un groupe de jeunes qui avait donc 18-20 ans à l'époque. On était une vingtaine. Et en tant que vieux, il n'y avait que deux vieux, c'est-à-dire moi qui avais 30 ans et un ami à moi, Rabah, qui avait pareil que moi. Donc on s'est engagé dans cette nouvelle aventure et c'est une aventure qui a duré.
Est-ce que par hasard vous sauriez nous dire si parmi toutes ces personnes qui composent le nous, une majorité s'est engagée ou en tout cas a poursuivi son engagement ?
Moi je pense que oui. J'ai pas de nouvelles de beaucoup de monde, mais dont Maui dont je vous parle, Myriam, des tas de jeunes dont j'ai des nouvelles encore aujourd'hui, restent engagés, effectivement. Ou alors on choisit une voie qui est une voie socio-culturelle, directeur d'établissement social, etc., etc. Donc c'est une voie qui a été choisie ensuite, et eux-mêmes ont ensuite créé. Par exemple, Myriam a créé son propre salon de coiffure. Chacun a ensuite pris sa responsabilité.
Ce que j'apprécie aussi là dans ce que vous dites, c'est en fait une forme de vision un peu manichéenne, on va dire, c'est-à-dire un peu non manichéenne justement, c'est-à-dire que l'engagement, c'est pas entre guillemets un bonbon rose qui tombe sur la tête de certains et qui permet à certaines personnes d'être peut-être meilleures que les autres vu qu'elles font le bien autour d'elles, mais c'est plutôt quelque chose qui est porté par la vie, qui arrive et puis
qui est vital. Moi je dirais c'est vital. Pourquoi c'est vital? Je pouvais pas faire autre chose. Je crois que quand on est sur une voie, je sais pas d'où vient cette voie et pourquoi cette voie. Vous allez me dire, il y a mon père qui s'est engagé à l'époque dans le tremblement de terre d'Agadir. Il y a l'exemple de ma mère qui s'est engagée aussi, parce que ma mère était directrice d'école et elle favorisait tous les gens qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école, qui venaient avec des claquettes en plastique en Algérie, qui n'avaient pas les moyens. Dans toute ma famille, il y a des gens qui s'engagent. Donc c'est aussi l'exemple d'engagement.
Il n'y a pas les bons et les mauvaises personnes, oui. Certains qui s'engageraient, d'autres qui ne pourraient pas s'engager. Il y a en fait surtout des aléas de vie qui vous emmènent à un moment à vous engager et qui souvent vous obligent ou en tout cas vous donnent envie de
poursuivre. Dans le sens positif beau du terme, oui. Beau du terme, oui. Obligé. Je suis
je m'oblige,
obligé, voilà.
Ça, j'apprécie voilà, cette vision-là.
C'est important, ce mot d'obligation. Il n'a pas ce sens de « je suis attaché à une obligation », tu vois. C'est plutôt « je me fais obligation ». C'est moi-même qui me fais cette obligation.
Une autre personne qui figure dans ce podcast, c'est Nejma de l'association NADA, qui a eu une phrase que j'ai retenue. C'est qu'au début, on s'engage un peu par hasard, et si on continue, c'est par conviction, nécessité. quel est le bilan en fait autour du papier qui explique que votre conviction a existé et qu'elle perdure ? De quoi est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs aient conscience au niveau de ce sujet qui est peut-être pas connu par tout le monde en fait ?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs points. Déjà, les flux de bois qui amènent à faire du papier, c'est des flux qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Donc déjà, bon, cette traversée de l'Atlantique, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Ensuite, quand c'est du papier recyclé, c'est pas toujours du papier qui vient de France. Ça peut être du papier qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a eu des gros combats récents sur des papeteries françaises qui faisaient du papier recyclé pour des journaux qui ont été sur le point de fermer. Je parle de la chapelle d'Arblay qui est proche de Caen. Donc il y a des vrais combats en ce moment sur ces questions-là, et de même y a tout un re-questionnement de ce système-là. À quel moment est-ce qu'on n'utilise que de la matière vierge pour faire des livres aussi? C'est quelque chose qui pose un blocage pour certains éditeurs. Il y a aussi la mentalité vis-à-vis de ce papier-là, qui est un peu bizarre, qui est un peu gris, qui est différent. Est-ce qu'il faut l'accepter ? Comment on l'accepte ? Et puis, il y a aussi ces éditeurs qui vont... Il y a tout un système, en fait, qui est très particulier, où les éditeurs vont envoyer aux libraires des livres, et ces livres-là, s'ils sont invendus ou abîmés, les libraires vont les renvoyer aux éditeurs, ils appartiennent aux éditeurs. Et à ce moment-là, les éditeurs, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Enfin, maintenant, on sait ce qu'ils en font. Ils vont les pilonner, c'est-à-dire qu'ils vont les détruire pour en refaire du papier, pour faire du papier recyclé. Néanmoins, c'est quand même tous ces livres-là qui ont été produits à l'intention de lecteurs et qui ne vont pas finir dans les mains de lecteurs. Donc il y a tout une économie à re-questionner, que l'association, par exemple, pour l'écologie du livre fait très bien, et ça devient nos partenaires sur ces questions-là. On travaille avec eux de plus en plus pour avancer. Et c'est aussi, l'engagement, c'est aussi un réseau avec d'autres associations, parce que on est une petite entité, une association. Mais en fait, on travaille avec un nombre assez important d'associations nantériennes, mais aussi d'associations qui partagent les mêmes intérêts sur l'environnement. On travaille avec le REFER, qui est le réseau des franciliens des ressourceries. On va travailler avec pour l'écologie du livre, qui est une association plutôt d'éditeurs, de libraires, qui se sont posés la question aussi. Et nous, on est plutôt du côté déchets, gestion des déchets, etc. Et puis, on travaille avec l'ensemble des acteurs sur Nanterre qui touchent à l'environnement et qui touchent aussi aux quartiers qu'on aime bien rencontrer.
La création de Vague de Flots, c'est une forme aussi d'engagement, parce que derrière l'ambition artistique, il y a aussi les contraintes juridiques, administratives, créer une association loi 1901, et puis ensuite trouver des personnes pour faire ce projet-là avec vous. Comment vous avez vécu, on va dire, ce changement de paradigme où vous passez de votre chambre à une structure qu'il faut gérer avec des rencontres, avec des contraintes?
Ça n'a pas été compliqué, mais j'ai dû vraiment beaucoup me renseigner, parce que en vrai je connaissais rien. L'idée m'est venue vraiment comme ça, genre vraiment en flash. J'étais chez un ami à moi et j'ai eu l'idée, et j'ai réfléchissais, et le truc, c'est que j'avais pas de téléphone à ce moment-là quand j'ai eu l'idée de créer l'association. Ça veut dire que c'était un peu plus compliqué, mais j'ai eu l'aide de ma mère notamment, qui a une association, donc elle m'a aidé au niveau des statuts, du procès-verbal, des trucs, et puis il y a YouTube, tout ça, donc ça va. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Pour moi, le plus compliqué, ça a été de trouver les bons partenaires. Vraiment. de trouver des personnes hip-hop, tout simplement, avec la mentalité hip-hop. Et voilà, hein, mais sinon, ça a été... Ça, en tout cas, ça m'a pas... Ça m'a pas... comment dire? Ça m'a pas dérangé plus que ça de le faire. Franchement, c'était un plaisir. Vraiment. Faire toutes les démarches et tout. Voir que ça a avancé petit à petit, ça a été un plaisir. Vraiment.
On parle souvent aussi de notre époque comme d'une époque désillusionnée, une époque désengagée. On parle beaucoup des jeunes dont on fait partie à l'évidence, comme des jeunes sans envie, sans rêve. Quelque part, je crois aussi que s'engager, avoir la capacité d'engagement, c'est aussi une forme de capacité à rêver. Est-ce que vous pensez que la jeune génération a les clés en main pour s'engager? Est-ce que vous pensez que c'est une génération qui va s'engager ou est-ce qu'elle s'engage déjà? Quel est votre regard sur les jeunes générations et l'engagement?
Je pense qu'elle s'engage déjà. Et comme je donnais ma définition de l'engagement, je pense que effectivement, c'est pour moi, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Donc, quand on regarde des jeunes générations qui travaillent sur TikTok, pour moi, ça, c'est déjà de l'engagement. C'est de l'engagement culturel. Ils vont faire des vidéos, ils se foulent vraiment à faire leur contenu. Donc, pour moi, ça, c'est déjà de l'engagement. Après, quand on parle d'engagement associatif, effectivement, on a une perte de bénévoles et un changement de vision du bénévolat. C'est-à-dire que les bénévoles qui viennent, ils viennent pour des petites missions. Des choses assez courtes, en fait. Là, cet été, par exemple, on a eu pas mal de jeunes qui sont engagés, justement. On a eu une personne qui était collégienne, hein, qui est venue nous voir avec sa grande sœur, du coup, j'ai quand même insisté pour qu'elle soit accompagnée, et qui est restée quelques jours pour faire avec nous l'événement Tapage. Et elle va renouveler un petit peu ça, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle ait passé aussi un temps qui lui apporte à elle aussi une ouverture, une discussion, un apprentissage aussi. Et ça, je pense que y a certains parents aussi qui poussent pour que ce soit le cas. Et sinon, je pense que on peut parler d'occupation.
Curieux, cela pas être en retard, pourquoi faire?
Des gens.
Hé, monsieur!
En fait, le temps est devenu une valeur tellement importante dans la vie.
Monsieur Lapin, attendez-moi.
Il est tellement rare que c'est difficile en fait d'être bénévole quand on est en plein apprentissage, quand on commence à travailler, ça c'est terrible. Enfin, d'un coup, on perd toute cette notion quand on commence à avoir des enfants, etc. Donc c'est une notion qui est un choix aussi. Savoir comment est-ce qu'on dégage son temps pour pouvoir faire de l'engagement. Et c'est là où ça re-questionne aussi la question du bénévolat. À quel moment est-ce que on est payé pour le temps qu'on passe? Et c'est des vraies questions que je me pose encore aujourd'hui, donc j'ai pas de réponse.
Il y a une exposition qui va bientôt avoir lieu à l'Agora et qui parlera justement de l'engagement avec un S, c'est-à-dire de toutes les formes d'engagement, en tout cas que nous, à notre hauteur, on a réussi à recenser à l'échelle du territoire. Et parmi les questions qu'on se pose, il y en a une, c'est qui s'engage? Et selon vous, qui s'engage? Et est-ce que certains sont désengagés et certains ne le sont pas?
Je crois qu'à un moment ou un autre de sa vie, on s'engage. Mais quand? Personne ne le sait, ça dépend de la vie, ça dépend des engagements, ça dépend de la voie qu'on a suivie. Il est clair que quand on a suivi un engagement, je pense que c'est c'est une histoire très personnelle qu'on vit au plus profond de soi. Il peut être arrivé pour l'engagement, des tas de gens se sont engagés parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils faisaient des choses qui n'avaient plus de sens pour eux. Et que finalement leur vie n'avait pas de sens dans ce qu'ils avaient fait. C'est pour ça que je vous disais le bénévolat et le travail, c'est une chose parce qu'il faut gagner sa vie, mais l'engagement il est ailleurs. Il est dans ce qu'on fait autour de soi avec les autres et pour les autres.
Et vous avez concilié les deux quelque part, vu que votre travail est devenu votre engagement, donc c'est possible aussi
de faire des concessions. Même si dans l'engagement, par exemple, on n'a pas à faire de concessions, j'ai appris à faire des concessions. Pourquoi? Parce que l'essentiel était l'engagement. Mais je n'aurais pas fait des concessions qui viendraient mettre en péril le principe de l'engagement, mes principes d'engagement. Je fais des concessions, mais pas au point de mettre en danger le projet que j'ai avec certains. Donc, oui, je pense que chacun est capable de s'engager, capable de le faire. Et non, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de vue ou de mort, j'allais dire presque. C'est pas... On n'a attendu l'autorisation de personne, on n'a demandé à personne l'autorisation de s'engager. On s'est engagé, point. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit « Oh ben tiens, il y a des choses qui se passent là, vous devriez y aller ». Non, nous ne sommes pas un service public. Nous sommes des êtres humains, Yanis, Nejma, Myriam, etc. Et on est tous engagés quelque part. C'est tout. Ah. À un moment donné, on est engagé un peu, beaucoup, un tout petit peu, un temps. Et puis après, on s'en va et puis on revient. Mais on est là. On sait qu'on peut compter sur ceux qui se sont engagés un petit peu.
Par curiosité, est-ce que vous connaissez des jeunes de votre âge, dans votre entourage, qui ont déjà eu des engagements associatifs? Est-ce que vos potes s'engagent?
Ouais, quelques-uns, ouais. Quelques-uns. J'ai un ami DJ qui a monté son association aussi et avec qui on devrait sûrement collaborer dans un futur proche. Mais oui, j'ai quelques amis qui sont dans ce milieu-là. J'ai un ami à moi, LDTR, rappeur, qui a monté sa structure aussi. Et pareil, lui, il est dans l'événementiel. On a un peu les mêmes projets, on va dire. Et ouais, non, c'est cool, c'est sympa. C'est sympa de voir qu'il y a des jeunes qui ont des projets, tout simplement, qui s'engagent. Et voilà.
Moi, je pense que oui. Je pense que la matière existe, les gens existent. Il suffit juste que nous, les anciens, on soit conscients qu'il faut qu'on passe un relais et qu'on y aille, quoi, qu'on y aille franchement maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre, que je veux dire. Il faut que tous ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui, peu ou prou, puissent trouver une main tendue qui les aide à aller plus loin. J'ai rien d'autre à dire, et c'est un crime de ne pas le faire.
Parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sujets autour de ça, il y a eu les émeutes, hein, vous êtes au courant, il y a eu d'autres sujets qui sont plus liés à l'école, à la réussite, à la précarité étudiante, enfin, il y a eu beaucoup de sujets autour des jeunes, et beaucoup de jeunes qu'on sent désemparés parfois voilà, dans cette conjoncture. Est-ce que le fait de s'engager dans... Alors pour vous, c'est plutôt s'engager dans une passion, même si on sent qu'il y a aussi l'engagement de la partager avec les autres. Mais est-ce que s'engager dans un projet comme Vague de Flow, c'est une manière aussi de faire société et d'agir?
Ouais, totalement. Parce que à travers lui, en fait, le hip-hop, déjà, c'est... Comment dire? Enfin, le hip-hop et surtout le rap en particulier, parce que moi, mon domaine, en vrai, c'est plus le rap. Mais... Le rap, c'est une musique qui dénonce, à la base des bases. C'est fait pour dénoncer, et c'est un bon moyen d'expression. C'est un bon moyen d'expression, et même le hip-hop, quand on danse, on se défoule, on se libère. Donc pour un jeune qui a, par exemple, trop de pression, qui a trop de pression sur les épaules, qui va pas bien, ça peut être un bon moyen pour extérioriser aussi. Donc c'est ça que je me dis, et puis même ça inculque des valeurs, donc c'est important, parce que c'est possible, en vrai c'est possible, on n'est pas bête, personne n'est bête, c'est juste question d'envie, en vrai, question d'envie, il y en a que ça dérange pas forcément, il y en a qui voient pas forcément le besoin de se réveiller, et c'est pas forcément quelque chose de grave, hein. Avant avril, j'étais comme ça. Enfin, je voyais pas forcément besoin de changement. Et en vrai, ça dépend des gens. Mais oui, j'aurais plus tendance à dire que, ouais, enfin, c'est une génération qui se repose un peu sur ses acquis. Voilà.
Et moi, ce que je retiens là, en tout cas de votre parole, c'est qu'il y a eu une forme de déclic, on va dire, comme si en avril vous avez votre déclic et que vous vous dites, ok, à partir de maintenant. J'arrête de dormir, entre guillemets,
c'est
me réveille.
Exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, justement, j'en suis l'exemple parfait. Parce que moi, avant, j'ai commencé à faire du rap, j'étais en quatrième. Donc ça fait quand même assez longtemps maintenant. Et je m'étais toujours dit, dans tous les cas, tu vas percer, c'est sûr, t'es trop fort, tout ça. T'as du talent, bah c'est bon. Tant que t'as du talent, c'est bon, ça va le faire. Mais non, en fait, simplement. Et je me reposais sur ça, en fait. Je me reposais sur ça et je dormais, tout simplement. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me prendre en main, me prendre moi en main et les autres en main pour que moi j'arrête de dormir entre guillemets et que eux aussi tout simplement. Donc ouais, c'était clairement un déclic. Mais oui, je leur souhaite, honnêtement je leur souhaite, s'ils peuvent tous trouver quelque chose à faire. Ou moi en fait c'est ça que je me dis bon, là je suis ici, je suis sur terre, c'est pour faire quelque chose en soi. Donc je me dis, quitte à vivre, autant faire quelque chose et pas rester là à rien faire, à errer sans but, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de trouver une motivation, voilà, en fait, tout simplement une motivation, un truc qui me donne envie de me lever tous les matins.
Bah c'est une cette médaille m'a beaucoup touchée, de la part des élus de Nanterre, du maire en premier, de la maire adjointe aux associations, des maires adjoints à l'action sociale, etc., qui étaient présents, du quartier aussi, des élus du quartier. C'est une reconnaissance de l'action de la vie associative dans une ville. C'est-à-dire, sans les associations, une ville, c'est une ville un peu triste. Je dirais pas pauvre, non, mais triste. Triste parce que c'est ce que donnent les gens de plus profond d'eux-mêmes, en dehors du travail, qui fait une ville et qui fait le bien vivre dans une ville. Ce que disaient certains, je suis venu à Nanterre, je ne voulais pas venir à Nanterre, mais il y a une telle chaleur, une telle ambiance, Eh bien, ce sont les associations. Et ils s'engagent en plus dans des domaines comme l'environnement, comme le travail, comme la formation, qui sont des domaines prioritaires. Alors, où s'arrête la priorité des associations et où commence le service public, c'est l'éternelle question qui se pose à Nanterre, d'ailleurs en tout cas, aujourd'hui, puisque les associations de plus en plus rendent des services de type intérêt général. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on considère que c'est un service social, entre guillemets, ou est-ce qu'on considère que c'est encore de l'engagement? Est-ce que ça va servir à cacher le fait que c'est un service social déguisé, non payé, ou est-ce que on va le reconnaître comme tel au risque de perdre l'âme de ces services? C'est un grand enjeu et j'espère qu'on va pouvoir en parler un jour de cette question-là.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Papette Éco par le futur et quelles seraient les marques de la réussite de l'engagement de cette association sur Nanterre et ailleurs?
Son implantation réelle, via le lieu bien sûr, hein, la création du tiers-lieu dans le quartier du chemin de Lille, ça serait. On a vu déjà cet été des résultats assez probants, hein. On a eu plus de 100 personnes qu'on a rencontrées et découvertes dans le quartier et qui ont trouvé l'initiative intéressante. Mais l'idée c'est de toucher le plus de personnes possible et faire en sorte que ça crée une vraie dynamique. Donc ça, c'est déjà une grosse part de réussite de l'association si on arrive à créer ce lieu et qu'il soit adopté par les habitants et que même l'engagement soit fait par les habitants aussi. Et sinon, par ailleurs, avancer sur ces questions d'utilisation, de réutilisation du papier. Arriver à trouver des solutions plus locales, de réemploi, de retour au sol même. Réfléchir en fait sur ces aspects-là, essayer de trouver peut-être à mettre en avant certaines éditions qui sont responsables. Y a beaucoup de travail à faire de toute façon. Et puis élargir aussi le champ des possibles et parler d'environnement en général. En fait, pour nous, c'est qu'une excuse pour parler environnement. C'est un point d'accroche et ensuite on va aller plus loin, on déroule le fil. De toute façon, tous ces points-là de l'environnement, je pense au point du développement durable, sont liés entre eux d'une manière ou d'une autre. Donc on va forcément être amené à parler nourriture avec les habitants, être amené à parler gestion des déchets, ces sujets qui sont au cœur de nos quotidiens et qui sont aussi au cœur de des choses de la société, en fait. Voilà.
Samedi, le 23, on sera sur la fête de la vie associative à Nanterre. C'est un événement qui va réunir beaucoup d'associations, dont la vôtre, Vague de Flot. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée-là et quelle forme d'engagement vous attendez de ceux qui vous visiteront ?
Déjà, ce que j'attends de cette journée, c'est déjà que ça se passe bien, qu'on ait quelques visites, et voilà, qu'on soit pas noyé dans les, enfin, qu'on soit pas noyé dans les autres associations. Et non, j'attends qu'on ait un peu de visibilité et qu'on commence à se faire connaître. Et qu'on se fasse des contacts, pourquoi pas, avec d'autres associations, ça pourrait être sympa. Et après, ce que j'attends des gens qui vont venir, c'est qui nous montrent de l'intérêt, quoi, tout simplement.
Bien sûr. Là, on a pas mal d'ateliers qui se profilent. On a un service civique qu'on recherche. Donc voilà, si quelqu'un veut se présenter, bienvenue.
À vos candidatures.
Voilà. Ouais. Et puis on est en recherche aussi pour discuter. Alors pour l'instant, cette première année, on va pas faire des ateliers dans les écoles directement, mais on va quand même commencer à discuter pédagogie, etc., avec les interlucuteurs importants. Et puis de plus en plus travailler avec les centres sociaux de Nanterre, travailler avec le plus de partenaires possible sur la ville.
Et que peut-on souhaiter à Nada dans le futur de positif ?
De passer le relais aux bonnes gens. Donc, actuellement, il y a une équipe très importante à Nada. Cette équipe fait du bon travail. Il faut maintenant passer le relais, essayer de former des équipes pour l'avenir. Je pense qu'en collaboration avec les associations locales, il faut qu'on se dirige vers ça.
Donc voilà. Si après, ils peuvent trouver quelque chose de similaire, un truc qui les anime, c'est mortel. C'est tout bénef. Et si en plus ça leur permet de s'engager, d'aider les autres, la communauté, c'est tout bénef. Vraiment.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup James Ateba pour ce témoignage.
Merci à vous.
Nanterre d'accueil. Un podcast pour parler de tous ceux qui ont trouvé, à Nanterre, leur terre d'accueil. Une production Radio Agora. Nanterre d'accueil, un coin pour tous.